Merci d'écouter RFI 13h en temps universel. Il est 14h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Cantner.
L'actualité des Amériques et d'Haïti pendant une demi-heure avec la Bolivie à la une. Nous appellerons tout à l'heure notre correspondante pour parler du mouvement social et politique suspendu pour 3 jours par les soutiens de l'ancien président Morales. Nous irons en Haïti voir comment les habitants de Port-au-Prince réagissent au retour au pouvoir de Donald Trump et puis l'actualité des Outre-mer françaises. En Guyane, où les autorités unissent leurs forces, Benoît Ferrand, contre les conséquences d'une sécheresse historique.
Oui, un point a été fait hier en préfecture sur les mesures prises pour desservir et ravitailler les localités que les pirogues ne peuvent plus atteindre, faute d'eau dans les fleuves. Nous entendrons tout à l'heure le préfet de la Guyane.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est l'heure du journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour, bonjour à tous.
Les condamnations pleuvent ce matin après les agressions de supporters israéliens à Amsterdam.
Hier soir, en différents endroits de la capitale, des agressions sont signalées. Après le match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv, la police a dû intervenir à plusieurs reprises, protéger les supporters israéliens et les escorter jusqu'à leur hôtel. 5 personnes ont été blessées. Berlin évoque des images terribles et honteuses. Les autorités israéliennes parlent d'effroyables incidents et le gouvernement néerlandais dénonce des actes antisémites inacceptables au diapason de la maire d'Amsterdam qui a tenu une conférence de presse à la mi-journée. On l'écoute.
Nooit was het antisemitisme ver weg.
L'antisémitisme n'a jamais été bien loin. Hier, nous avons assisté à une explosion d'antisémitisme comme nous espérions ne plus en voir à Amsterdam. Je suis indigné et au nom du Conseil municipal et de la police nationale, je condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence qui ont eu lieu. Parmi les Juifs d'Amsterdam, il y a de la peur, de la consternation, de la colère, de l'incrédulité. La police nationale fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des habitants juifs d'Amsterdam.
Femke Halsema, la maire d'Amsterdam, à la mi-journée.
Le gouvernement israélien, lui, a décidé d'envoyer en visite diplomatique urgente le ministre des Affaires étrangères à Amsterdam.
L'émotion est forte dans le pays, le gouvernement en première ligne. Michel Paul, bonjour, vous êtes à Jérusalem.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
2 avions sont affrétés de Tel Aviv pour rapatrier les ressortissants israéliens avec une équipe médicale.
Oui, alors ces avions de sauvetage israéliens sont finalement partis. L'un d'entre eux est d'ailleurs même sur le point de se poser à l'aéroport Schiphol à Amsterdam. Avec pas mal de retard, il a fallu au préalable obtenir le feu vert des 2 grands rabbins d'Israël pour voler pendant le Shabbat. En tout cas, la compagnie nationale israélienne est là, elle a annoncé qu'elle renforce le nombre de ses vols tout au long du week-end et que le rapatriement des Israéliens qui se trouvent toujours à Amsterdam se fera de manière gratuite. Le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, offre ses services à la police néerlandaise qui est très critiquée en Israël. À ce stade, la cellule d'urgence du ministère des Affaires étrangères n'a pas encore réussi à localiser tous les Israéliens à Amsterdam. Ceux encore sur place sont en tout cas invités d'éviter d'arborer des signes extérieurs permettant de les identifier comme Israéliens et même comme Juifs. Les réactions sont très fortes ici. Le premier ministre israélien Netanyahou dénonce une attaque antisémite préméditée. Le président israélien Yitzhak Herzog utilise pour sa part le terme de pogrom en plein cœur d'Amsterdam. Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, se déclare profondément inquiet. Autre décision, Karine, policiers et militaires israéliens ne sont plus autorisés à se rendre aux Pays-Bas.
Michel Paul de Jérusalem, j'ajoute qu'un match France-Israël est prévu jeudi prochain au Stade de France. Le ministre de l'Intérieur n'envisage pas une délocalisation. Bruno Retailleau écrit sur X que la France ne reculera pas face aux menaces de violence et l'antisémitisme. Le dispositif de sécurité va être renforcé. À Budapest, les 27 tentent de se mettre en ordre de marche après l'élection américaine. Les réformes économiques dans l'Union européenne sont devenues encore plus urgentes avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est la mise en garde de Mario Draghi aux dirigeants de l'Union européenne. L'ancien président de la Banque centrale européenne est venu défendre son vaste programme d'investissement Dans la capitale hongroise, le constat est sans appel. Les 27 subissent un fort décrochage économique par rapport aux États-Unis et ils sont de plus en plus dépendants de la Chine. Pour éviter une lente agonie, Mario Draghi prévient qu'il faut engager des investissements massifs, plus de 750 milliards d'euros par an, plus que le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Les discussions s'annoncent houleuses entre les dirigeants européens divisés sur la question.
En France, le gouvernement veut s'attaquer à la criminalité organisée et au trafic de drogue.
Et c'est à Marseille, là où la guerre entre gangs sévit, que les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont décidé de faire des annonces. 42 personnes sont décédées dans des homicides liés au trafic de drogue depuis le début de l'année en France. Les saisies de cocaïne ont été multipliées par 5 en 10 ans. Victorien Villaume, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour tout le monde.
Vous êtes en direct de Marseille, vous suivez la visite des ministres pour nous. Bruno Retailleau et Didier Migaud se sont affichés unis pour lutter contre le narcotrafic.
Oui, exactement. Alors qu'ils affichaient plutôt leur désaccord par médias interposés il y a encore peu de temps, Didier Migaud, je le rappelle, vient de la gauche, Bruno Retailleau de la droite très conservatrice. Le mot d'ordre, c'est désormais d'afficher un exécutif uni pour la sécurité des Français. On écoute Didier Migaud.
J'avais proposé ce déplacement à Bruno Retailleau. Je suis vraiment très heureux qu'il ait accepté de venir ici et que nous puissions présenter ensemble un certain nombre de mesures.
Voilà, pour lutter contre les trafiquants, il faut faire évoluer la législation, a reconnu Didier Migaud. Le garde des Sceaux et Bruno Retailleau ont aussi bien insisté sur l'importance de faire travailler ensemble le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Alors, ont été annoncés notamment plus d'effectifs dans les tribunaux et dans la police, un nouveau parquet entièrement dédié à la criminalité organisée, mais aussi plus de souplesse judiciaire pour agir efficacement contre les trafiquants et leurs familles. Bruno Retailleau.
Il faut que le commerçant qui est véreux et qui blanchit subisse, là encore, la fermeture de son commerce. Et il faut que le voyou qui roule en gros cylindré puisse, là encore, s'expliquer sur le financement de son véhicule.
Voilà, c'était Victorien. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé la parole.
Alors que Didier Migaud est resté relativement sobre dans son propos, sans surprise, son collègue de l'Intérieur a prononcé des mots très forts, estimant que le narcotrafic représente une menace existentielle pour la France.
Merci Victorien Villaume et désolé, vous étiez à Marseille pour RFI. Donald Trump envisage de parler avec Vladimir Poutine dans les prochains jours. Première confidence du président élu qui a donné sa première interview depuis l'élection à la chaîne NBC. Le président russe s'est dit de son côté prêt à reprendre le contact.
Le Canada a ordonné avant-hier la liquidation de la branche locale de TikTok.
Oui, les autorités invoquent des risques précis pour la sécurité nationale. Les fonctionnaires canadiens avaient déjà l'interdiction d'utiliser l'application chinoise. En revanche, les autres utilisateurs peuvent toujours y accéder à leurs risques et périls, prévient le gouvernement. Les précisions à Québec de Pascal Guéricola.
Ils créent des grands pôles numériques à l'échelle planétaire.
Les grands pôles numériques dont parle le spécialiste en cybersécurité Guillaume Morissette concernent d'un côté les États-Unis, le Canada et les pays occidentaux et de l'autre la Russie et la Chine. Il voit donc dans la décision de faire fermer les installations locales de l'application chinoise TikTok au nom de la sécurité nationale un nouvel épisode des tensions diplomatiques entre les gouvernements canadiens et chinois. De leur côté, les autorités à Ottawa n'ont pas précisé les raisons derrière cette mesure. L'expert en sécurité informatique, Steve Waterhouse, y voit, lui, un lien avec l'élection qui vient tout juste de se dérouler aux États-Unis.
Le gouvernement canadien, par cette annonce, veut envoyer comme message qu'il ne tolérera pas qu'il y ait de l'utilisation de médias sociaux par un État étranger afin d'influencer incorrectement la population.
Selon ce spécialiste, les faux messages colportés sur TikTok durant la campagne électorale américaine inquiètent le Canada, où des élections pourraient avoir lieu d'ici moins d'un an. D'autres experts rappellent pour leur part l'utilisation que pourrait faire le gouvernement chinois des données personnelles des utilisateurs canadiens, puisque l'entreprise a l'obligation de l'aider à recueillir des informations. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Voilà, c'est la fin de ce journal, Anne.
Merci Karine Bellicha. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un nouveau journal. Et nous, nous sommes sur le continent américain pour cette dernière partie d'RFI Midi. Direction tout de suite la Bolivie.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
La Bolivie, où les manifestations sont suspendues pour 3 jours, décision du syndicat à l'origine du mouvement. Ce mouvement, il est porté par des partisans d'Evo Morales, ancien président, visé par plusieurs accusations, dont viol et traite d'êtres humains impliquant des mineurs. Ça a été l'élément déclencheur d'un mouvement politique, social, qui dure depuis un mois maintenant dans un contexte de profonde crise économique. Nous sommes en direct avec notre correspondante. Bonjour Camille Bouju.
Bonjour.
Le climat est extrêmement tendu depuis plusieurs semaines maintenant. Où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui?
Alors ici, à La Paz, la tension est toujours palpable. Les manifestants ont certes suspendu les blocages avant-hier à la demande d'Evo Morales, qui a entamé une grève de la faim pour appeler au dialogue, mais ils ont aussi évoqué des raisons humanitaires, car dans tout le pays, l'accès aux biens de première nécessité, comme le poulet ou même le riz, est devenu très difficile. Les prix ont explosé et les pénuries s'aggravent. À La Paz, par exemple, les files d'attente aux stations-service peuvent durer jusqu'à 12 heures. La population est prise au piège de cette paralysie et la frustration ne cesse de grandir.
Et face à ces pénuries, à ce mouvement social, est-ce que les autorités ont prévu des actions concrètes?
La semaine dernière, le président avait envoyé l'armée dans la région du Chaparé, épicentre des blocages, pour justement tenter de débloquer la situation. En vain, la résistance en face est forte. Et pire, on a appris que plus de 200 soldats avaient été pris en otage par des paysans pro-Morales. Or, depuis, nous n'avons pas de nouvelles de ces militaires. Enfin, le président Arce a appelé hier à des tables de travail pour trouver des solutions à la crise économique provoquée par le mouvement. Mais l'incertitude persiste car les blocages pourraient reprendre dès demain.
Des blocages de routes, une situation explosive. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel point de rupture?
Alors, en effet, le pays semble s'engouffrer dans une crise sans précédent. Et pour la comprendre, il faut remonter à plusieurs années de difficultés accumulées. Premièrement, et c'est sans doute ce qui pèse le plus concrètement sur la population, il y a la situation économique du pays qui est au plus mal. Je vous propose d'écouter le politologue France Flores à ce sujet.
Le niveau des exportations boliviennes a baissé, notamment en ce qui concerne les matières premières, les minéraux et surtout le gaz, ce qui signifie que les devises étrangères, les dollars, n'entrent plus sur le marché bolivien en quantité suffisante pour répondre à la demande. C'est pourquoi le prix du dollar a augmenté et cela provoque naturellement un processus inflationniste, une augmentation des prix qui se fait sentir dans les portefeuilles des gens.
Cette pénurie de devises, comme il le dit, a des conséquences directes sur la population, d'où le mécontentement grandissant dans le pays.
Mais la crise ne s'arrête pas là. On le disait, il y a aussi une très forte dimension politique.
Oui, l'autre point de ce conflit, c'est une lutte de pouvoir qui se joue au sein du parti qui gouverne, le MAS, entre l'actuel président Luis Arce et l'ex-président Evo Morales. Alors, en apparence, la querelle est simple. En 2025, la Bolivie élira un nouveau président et les deux hommes souhaitent se présenter. Or, normalement, c'est impossible. D'abord parce que le MAS ne peut proposer qu'un seul candidat et ensuite parce qu'Evo Morales n'est en théorie plus éligible. Il a déjà exercé 3 mandats de 2006 à 2019 et l'année dernière, le tribunal constitutionnel de Bolivie a limité le nombre de mandats présidentiel à 2, consécutif ou non, annulant ainsi une précédente dérogation de 2017 qui permettait la réélection indéfinie.
Et cette rivalité, ça ne risque pas de fragiliser le parti au pouvoir? Est-ce qu'il y a des effets concrets déjà?
Absolument, cette lutte pour le leadership au sein du MAS divide profondément le parti et polarise ses soutiens même. Le fait est que Morales, contrairement à Luis Arce, conserve une base de soutien solide, en particulier dans le Chaparré. Il reste très influent et mobilise largement. C'est notamment ce que l'on a vu avec le mouvement qui a commencé il y a près d'un mois. Ce sont ses propres partisans qui, à sa demande, ont initié des blocages pour le protéger et dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une persécution judiciaire contre leur leader. Car Evo Morales, je le rappelle, est visé par plusieurs accusations, notamment de viol et de traite humaine impliquant des mineurs. Mais au-delà du parti, cette rivalité, elle est omniprésente dans le quotidien de la population bolivienne qui, dans sa majorité, est lassée de la situation. Et plus l'échéance de 2025 approche, plus il est probable que cette crise continue de s'intensifier.
Camille Bouju, en direct de La Paz.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On va maintenant jeter un œil à la presse du continent avec vous, Christophe Paget. En Haïti d'abord, où l'on apprend qu'en moins d'un mois, plus de 1500 personnes ont trouvé refuge sur l'île de la Gonâve, en face de la baie de Port-au-Prince.
Oui, suite aux violences des gangs armés dans la commune de l'Arcahaie, indique l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, c'est-à-dire sur le site d'Alter Press. En tout, ce sont près de 22 000 personnes qui ont été déplacées suite à ces violences survenues depuis le 10 octobre, précise Gazette Haïti. Plus largement, depuis le mois de juin, les chiffres de l'OIM montrent une augmentation de 22% du nombre de personnes déplacées dans le pays.
Toujours en Haïti, le quartier de Fort National a été une nouvelle fois attaqué hier par la coalition de gangs Vivre Ensemble.
Ils ont incendié plusieurs maisons en représailles à la mort de bandits tués par la police mardi et mercredi, raconte toujours Gazette Haïti. Et alors que les bandits armés imposent leur loi sur la population civile, les deux branches de l'exécutif qui devraient travailler en synergie afin de mettre fin aux agissements des gangs se livrent une bataille sans merci, déplore Gazette Haïti. Exemple, écrit le Nouvelliste, certains conseillers présidentiels refusent de rencontrer le Premier ministre qui, de son côté, souhaite le départ des membres du CPT inculpés dans le dossier de corruption de la BNC. Dans son éditorial, le quotidien parle d'une classe politique qui refuse de grandir.
Et puis la presse haïtienne parle aussi de Donald Trump.
Selon l'avocat Franley Denis Julien, interrogé hier sur Magic 9 et le Nouvelliste s'en fait l'écho, avec Trump, les sanctions contre les acteurs haïtiens risquent de perdre de leur force car, juge-t-il, les États-Unis ne feront plus la promotion de la démocratie nulle part. Franley Denis Julien rappelle aussi les difficultés rencontrées par le passé par les avocats spécialisés en immigration, un domaine particulièrement ciblé sous la première administration Trump. Certains de ces avocats, qui avaient intenté des actions contre des abus aux droits des migrants, ont été ajoutés sur des listes de terroristes.
Voilà, cette élection de Donald Trump, elle inquiète beaucoup en Haïti. Inquiétude grandissante concernant notamment la politique migratoire du nouveau président. Les Haïtiens rencontrés par notre correspondant à Port-au-Prince ont bien en mémoire la promesse de Donald Trump d'expulser 20 millions d'immigrés et ses outrances pendant la campagne. Le dirigeant américain est vu comme une menace par beaucoup, ce qui amène certains Haïtiens à réclamer des solutions d'abord à leurs propres dirigeants pour remettre le pays sur les rails. Reportage, Peterson Luxama.
Dans les rues animées de Port-au-Prince, la nouvelle de la victoire de Donald Trump résonne comme un coup de tonnerre. Entre inquiétude et résignation, les Haïtiens réagissent avec des sentiments partagés. Étudiant à l'Université d'État d'Haïti, Michelson craint l'arrivée au pouvoir du républicain.
Les conséquences seront négatives. Nous pourrions assister à une déportation massive des migrants haïtiens aux États-Unis, en particulier les bénéficiaires du programme humanitaire de l'administration Biden, qui n'ont pas de statut légal aux États-Unis. Nous le savons tous, pour Donald Trump, ce programme humanitaire est illégal. Et puis, il accuse les Haïtiens de manger des animaux domestiques, alors que cela ne fait pas partie de notre culture.
D'ailleurs, nous-mêmes Haïtiens, nous avons ça dans notre culture, nous.
Une référence aux fausses rumeurs propagées par Donald Trump et son colistier autour des Haïtiens de Springfield. Cette ville de l'Ohio, par laquelle le 47e président américain a promis de commencer pour mettre en œuvre l'expulsion de masse la plus grande de l'histoire de tous les immigrés. Pour autant, certains citoyens, comme cet homme croisé dans la capitale, veulent croire qu'il ne s'agissait là que d'un discours de campagne utilisé par le milliardaire pour gagner le scrutin.
En période de campagne, un candidat peut dire n'importe quoi pour gagner en popularité. Il y a beaucoup d'Américains qui ne voient pas d'un bon œil ce grand nombre d'Haïtiens arrivant aux États-Unis. Ils sont contre le programme humanitaire de Biden. C'est normal, Donald Trump a vu cela et l'a utilisé comme discours de campagne. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a gagné l'élection.
Si beaucoup espéraient qu'une victoire de Kamala Harris se traduirait par une politique migratoire plus clémente à l'égard des Haïtiens, certains révèlent un besoin pressant de changements locaux. Trump, élu ou non, ce n'est pas cela qui va changer Haïti. Les dirigeants haïtiens doivent s'entendre pour établir la paix et la sécurité et permettre aux Haïtiens de rester et prospérer dans leur propre pays.
Pas grand chose qui pourra le faire, sinon que c'est nous-mêmes
qui toujours. Sinon, ce sera toujours nous qui serons écrasés, qui serons sous le pied des autres. C'est pourquoi il est plus qu'évident qu'en tant qu'Haïtiens, nous devons nous unir pour sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons.
C'est à nous de nous unir pour bien gérer notre pays, pour ne pas dépendre des autres ou des résultats d'ailleurs. Ce sont les dirigeants qui doivent se mettre au travail et bien administrer le pays.
Même son de cloche du côté de Félix, un entrepreneur croisé à Boisverna. Pas de critique contre Donald Trump. Selon lui, l'avenir d'Haïti repose avant tout entre les mains de ses propres dirigeants.
Moi, je penche plutôt pour Donald Trump, même si dans sa campagne, il a tenu des propos racistes contre les immigrants. C'est vrai que ses paroles ne font pas honneur aux immigrants, mais elles sont bonnes pour son propre pays. Je pense qu'à partir de cette élection, c'est une opportunité pour les Haïtiens, pour les dirigeants, afin qu'ils prennent conscience et puissent faire avancer le pays.
Un vœu et un espoir aussi. En 2018, lors de son premier mandat, Donald Trump avait cherché déjà à révoquer les protections accordées aux Haïtiens. Sans succès, la justice avait estimé que l'initiative manquait de toute explication ou justification. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et on vous retrouve, Christophe Paget, pour lire les journaux du continent aux États-Unis, justement, où l'élection de Donald Trump semble déjà libérer la violence raciste. Des Afro-Américains ont reçu des textos menaçants après la victoire du milliardaire républicain.
Oui, le Washington Post raconte comment Alice McCall, une étudiante noire de première année à l'université d'Alabama, a appelé en pleurs sa mère mercredi matin, lui disant qu'elle avait reçu un message lui disant qu'une fourgonnette allait venir la chercher pour l'emmener à la plantation de coton la plus proche et qu'elle devait commencer à préparer ses affaires. Ces textos ont été envoyés dans au moins une douzaine d'États ainsi que dans la capitale Washington. Tous ordonnent aux étudiants noirs, qui semblent avoir été la cible privilégiée, d'aller travailler dans des plantations de coton comme esclaves. Des écoliers ont aussi reçu des messages de menaces dans le Maryland et dans le district de San Francisco. Des messages qui alarment, écrit le Washington Post, après une campagne pendant laquelle le président élu Donald Trump et son équipe de campagne ont utilisé un langage incendiaire contre les minorités. Certains de ces messages étaient d'ailleurs signés par un partisan de Donald Trump ou même de l'administration Trump, ce qu'a énergiquement démenti l'équipe de campagne du président élu.
Pendant cette campagne, Donald Trump avait aussi beaucoup parlé d'immigration et un juge du Texas vient de révoquer l'une des plus importantes réformes en la matière de Joe Biden.
Alors le nom de la mesure, c'était garder les familles ensemble. Elle a été lancée au mois d'août. Il s'agit, rappelle le New York Times, de permettre aux migrants sans papier mariés à des citoyens américains et qui résident aux États-Unis depuis au moins 10 ans d'avoir une chance de récupérer la fameuse green card sans quitter le pays. Des centaines de milliers de personnes sont concernées. Mais le juge texan qui avait été nommé par Donald Trump a estimé que l'administration fédérale n'avait pas l'autorité pour mettre en place ce programme. C'est ce qu'affirmaient déjà les 16 États dirigés par des républicains qui avaient lancé la procédure il y a quelques mois. Cette décision est un autre coup porté au plan de Joe Biden de tenter de protéger des migrants illégaux contre les plans d'expulsion d'une prochaine administration, juge le journal conservateur Washington Times.
Et puis aux États-Unis aussi, on réagit à l'expulsion annoncée par Donald Trump de millions d'immigrés installés dans le pays.
La gouverneure Maura Healey a déclaré que son administration s'engageait à protéger les résidents du Massachusetts contre ces expulsions massives d'immigrés sans papier, rapporte le Boston Globe. Tous les outils doivent être utilisés pour protéger nos citoyens, nos résidents, nos États et certainement pour maintenir la ligne de la démocratie et de l'État de droit, a dit la gouverneure du Massachusetts, qui a également précisé que la police de son État n'aiderait pas à la mise en place de ces expulsions. Une position applaudie par l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles. Une position, rappelle le Boston Globe, qui fait écho à celle adoptée il y a 8 ans par Martin J. Walsh, alors maire de Boston, au début du premier mandat de Donald Trump.
Christophe Paget, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants.
RFI, Las Voces del Mundo.
Après un détour par l'Argentine où un jugement historique a été rendu hier, un jugement qui fera date dans la justice environnementale. Pour la première fois, Théo Conscience, un éleveur a été reconnu coupable de dommages environnementaux et de cruauté animale pour avoir tué plus d'une centaine de manchots de Magellan il y a 3 ans.
À 4 reprises, en août, septembre, novembre et décembre 2021, un éleveur de la province de Chubut a utilisé une pelleteuse pour défricher un terrain lui appartenant situé à côté de la réserve naturelle de Punta Tombo. Bilan, 105 manchots de Magellan tués, 292 nids détruits et des centaines d'œufs et de poussins écrasés. Hier, la justice argentine l'a reconnu coupable de cruauté animale et de dommages environnementaux aggravés en soulignant les dégâts irréversibles de ses actes sur la faune et la flore locale. Cette décision, une première en Argentine, constitue une étape importante pour la justice environnementale, la protection des pingouins et de la nature, a indiqué dans un communiqué le biologiste et membre de l'association Greenpeace Mathias Arregazzi. Le parquet a requis 4 ans de prison contre l'éleveur, qui s'est défendu pendant son procès en estimant que les manquements de l'État depuis 10 ans ne lui avaient laissé aucune autre option pour établir des voies d'accès et des délimitations entre son champ et la réserve. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
À Buenos Aires, il est 10h24. Dernier coup d'œil à la presse, Christophe Paget. Au Guatemala, 2860 années de prison requises contre un ancien général pour génocide.
Oui, selon le parquet des droits humains, écrit La Hora, Benedicto Lucas Garcia, un général nonagénaire à la retraite, est responsable d'une série de disparitions forcées au début des années 80 durant le régime de son frère, l'ex-président Romeo Lucas Garcia. Le parquet affirme que Benedicto Lucas Garcia, avec d'autres militaires, a attaqué la population indigène Ixil des Mayas, prétendant qu'elle appartenait à la guérilla et, dans le cadre de plans coordonnés, a mis en place sa disparition, exécutant possiblement plus de la moitié de la population Ixil. Benedicto Lucas Garcia purge déjà une peine de 58 ans de prison pour la disparition forcée d'un jeune homme et le viol et la torture de sa sœur.
La revue de presse signée Christophe Paget à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, en Guyane, État, collectivités territoriales et élus municipaux unissent leurs forces pour lutter contre les conséquences d'une sécheresse historique.
Oui, une sécheresse historique, la pire depuis 60 ans, semble-t-il. Le préfet s'est entretenu hier avec le président de la CTG et les élus des fleuves Maroni à l'ouest, Oyapok à l'est, histoire de faire le point sur les mesures prises pour desservir et ravitailler les localités que les pirogues ne peuvent plus atteindre, faute d'eau dans les fleuves. Écoutez le préfet de la Guyane, Antoine Poussier.
On essaie de traiter les problèmes un par un. On travaille beaucoup sur le fret alimentaire avec la collectivité territoriale de Guyane. Guyane Airfly a augmenté ses capacités de fret, environ 20 tonnes. Les forces armées de Guyane mettent à disposition donc, on appelle les avions les CASA. Et on est en train d'organiser une forme de ravitaillement aérien alimentaire avec la volonté que pour le consommateur, on puisse effacer le surcoût du transport. On sera très attentif à ce que les commerçants le long du Maroni, comme le long de l'Oyapok, respectent justement cet engagement de ne pas augmenter leurs prix, puisque c'est la collectivité territoriale de Guyane et l'État qui prennent en charge les surcoûts de transport. On travaille également sur la bouteille de gaz, de façon à ce que les conséquences de la crise météorologique aient un impact le plus minimal possible sur le pouvoir d'achat des populations du fleuve.
Antoine Poussier, le préfet de la Guyane, au micro d'Inès Apetovi. Et pour illustrer la situation de ces communes guyanaises dites de l'intérieur, qui se retrouvent avec des magasins à moitié vides et des prix parfois surréalistes, écoutez cette correspondance depuis Marie Passoula sur le fleuve Maroni, correspondance de Laura Philippon.
Dans cette supérette du bourg de Marie Passoula, des rayons sont vides. Pas de bouteilles d'huile ni de pack d'eau. Ces derniers jours, les habitants ont de plus en plus de mal à trouver de quoi se nourrir. Noni a 3 enfants. Elle vient d'acheter une bouteille de jus de 2 litres à 7 euros. C'est tellement cher, souffle-t-elle. Cette semaine, comme beaucoup d'habitants de Marie Passoula, elle a traversé le fleuve pour aller faire ses courses au Suriname. C'est un peu moins cher là-bas, mais des produits manquent aussi. À Marie Passoula, difficile de trouver une bouteille de gaz. Les derniers se vendent à 100 euros, le pack d'eau à 18 euros et le sac de riz de 5 kilos à 30 euros. Quand les produits ne manquent pas, leurs prix sont exorbitants. Le collectif Apache dénonce l'absence de contrôle des prix, le manque de réaction de l'État. Selon lui, cette difficulté d'approvisionnement aurait pu être anticipée. Sur le fleuve, le transport en pirogue est quasiment à l'arrêt. Le saut de Mahanka à Chiaba, l'homme couché en travers, porte bien son nom, car il est devenu infranchissable.
Bon après-midi, bon week-end, Anne, à lundi.
Merci Benoît Ferrand, bon week-end. De la musique avant de se quitter. Avec la rappeuse Canis et le titre No Contact. I'm back. On top, I got la trop bon, la prêle moi non-stop. No contact, moi d'en balé l'encore. Sans contact, qu'on y a les collé d'un com. Say she want it non-stop, non-stop. Bagala tellement goût, l'y veut chez moi pop. No contact, moi d'en fait les encore. Sans camper, moi dis baby don't stop, don't stop. Man, y'a la récit pour un vent, mais pas récit pop. M'get a fait mes potes, montez vite, get un jeune au lot. Bah, m'get a changé style, toujours fly, l'y veut pop. Bah, m'blue fait silence, m'a pas distancé, même il veut bombo. Bah, m'show, yeah. Baby, pas fait m'distrait, pour m'blier, pour qui raison, m'a v'lait qui tournette. Pour m'blier, pour qui raison, m'a pas v'lait tourner. Pas honnête, chérie, bon, pour v'lait m'back. On top, I got la trop bon, live les moyens non-stop. No contact, moi d'en balé l'encore. Sans contact, qu'on y a les collés dans le com. Say she want it non-stop, non-stop. Pas gala tellement goût, live les chez moi pop. No contact, moi d'en fait les encore. Sans camper, moi dis baby, non-stop. Douce quand pis pop, pis push et pis m'stop. Baby who's your daddy, she say baby zim kilot. Bloqué nan main ou bloqué m'sou pas jour. J'en collé nan comme ou resi wagi bagin lot. Libes un designer et les steff on top. Bap kake cocotte, ma tate tot tot. Ma zep les défait shot, même pap ka pour on lot. Talem collé encore, fait m'bak a faire one pot. I'm back, on top. A gala toi bon, la prêle moi non stop. No contact, ma dem balil encore. Sans contact, kounya li collé nan comme. Say she want it non stop. Non-stop, bagala tellement goût, li veli chez moi pop. No contact, moi d'en fait li encore. Sans camper, moi dis baby, non-stop. Et c'est avec Canis que se termine RFI Midi. On se retrouve lundi, 11h30, temps universel, mais vous restez avec nous. Dans quelques secondes maintenant, Littérature sans frontières avec Kamel Daoud, prix Goncourt, et Gaëlle Faye, prix Renaudot cette année. Très bonne journée à tous. Word around towns, I got shorties all around. We eating at uptown, but she want me downtown. Spiritual baby, she trying to heal me with.